tradition depuis plus de 30 ans que je suis dans notre Église. Et c'est un plaisir ce matin de vous parler de l'Église. Et l'apôtre Paul, qui va nous guider dans ce message, est incroyablement encourageant. Il va d'abord parler de l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et il va encourager les gens, mais il va aussi leur demander de faire attention à ce qu'ils font. Et on va lire ça dans le premier passage. Donc c'est l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et on va lire dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Alors, nous qui sommes là aujourd'hui à écouter la parole de Dieu, à chanter des cantiques, à invoquer son nom, nous sommes l'Église de Dieu. Et nous le sommes par notre baptême, nous devenons des membres du peuple de Dieu, et on est un petit peu surpris d'entendre ici l'apôtre nommer l'Église de Dieu, ces gens de Corinthe, hein, dans son adresse, et il va tout à l'heure leur adresser aussi de si sévères reproches. Et s'il le fait au milieu de tous ces gens qui forment l'Église et où il y a beaucoup d'éléments extrêmement différents, il reconnaît les fidèles que le Seigneur a appelés par son ministère. Et ceux d'entre nous qui répondent à cette vocation divine, à cet appel et acceptent le salut, eh bien, appartiennent à l'Église. Et ils deviennent en même temps membres du corps de Christ. Alors, nous sommes en effet les uns et les autres liés par ce salut qui nous fait appartenir à l'Église. Nous sommes liés par la même foi, nous tous qui invoquons en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que l'apôtre Paul rappelle. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une belle théorie? Une belle théorie sans rapport avec la réalité? Eh bien, parfois on pourrait le croire quand on nous regarde vivre. Mais c'est à une communion que nous sommes appelés à vivre ensemble, et cette communion, c'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres et pour notre Seigneur. Alors, il faut le reconnaître, on a encore beaucoup de chemin à faire pour devenir une communauté, une fraternité. Il nous faut apprendre à partager, à échanger, à mettre en commun. Et le Seigneur qui connaît toutes choses, eh bien, sait que nous avons peu de force, et que nous essayons malgré tout de garder sa parole et de ne pas renier son nom, Jésus-Christ. Alors, il faut que le Seigneur nous accorde d'être dans son Église, ici, dans notre pays, et qu'il nous accorde de tenir ferme, et que nous avons à vivre comme des frères et des sœurs qui manifestent ainsi leur appartenance à la communauté de Jésus-Christ. C'est ça que veut dire l'apôtre Paul. Nous sommes une communauté. Alors, bien sûr, il va y avoir des soucis, des problèmes, mais nous sommes une communauté parce que c'est l'amour qui nous lie et la foi en Jésus-Christ. Alors, le deuxième thème que j'ai employé, toujours pour vous allez peut-être être choqués du titre, c'est « Mon Église imparfaite ». Ben, vous vous en doutiez, notre Église, elle est imparfaite. On s'imagine volontiers que l'Église primitive, vous savez, on a un modèle en tête, que l'Église primitive était parfaite. On va lire ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 8. C'est incroyable ce qui est dit là. Hein. En gros, il est en train de dire, vous faites des procès les uns les autres, et essayez de vous entendre. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors, on tombe un peu des nues quand l'apôtre Paul, après avoir dit ce qu'il vient de dire, dit ça. C'est vrai que on a toujours une vision un petit peu, je dirais, énamourée de l'Église primitive, qu'elle était la Sainte Église. Bien, le Nouveau Testament ne dit pas ça. Il nous montre l'image d'une Église qui est bien loin de la perfection. Il suffit donc de lire ces quelques lettres que l'apôtre Paul donne aux communautés chrétiennes. On voit bien que dans tout ça, il y a de la misère humaine et qu'il y avait dans le sein de ces assemblées des infidélités, des impuretés, des divisions, des inimitiés. Et, comme ailleurs, le mal y exerçait son pouvoir. Et l'apôtre Paul les enseigne. Alors bien sûr, l'Église n'a jamais prétendu être un ensemble de parfaits et de purs. C'est pas vrai ça. Et sur terre, elle aura du mal à l'être parce que nous marchons pour y arriver, mais nous sommes tellement faibles. Alors souvent, l'Église et on le sait, elle est constituée d'hommes et de femmes pécheurs qui reconnaissent sans doute Jésus comme leur chef et leur sauveur, et finalement s'efforcent de marcher sur les traces de Jésus, mais des hommes et des femmes qui, quoique sauvés, sont toujours sujets à des erreurs, à des fautes, à des manquements. Et c'est justement pour ça que le lien de l'amour que nous avons les uns pour les autres doit combler ces choses. Alors, je peux donc trouver mon Église imparfaite. L'Église ici à Lille est imparfaite, oui. On peut voir ses faiblesses, vous les connaissez, je les connais, signaler ses manquements, déplorer son impuissance. Mais dans mon Église, et c'est ça qui est le plus important, Jésus est quand même présent. Il est là, agissant au milieu d'elle et par elle. Et même s'il est imparfaite, cette Église, c'est quand même elle qui nous conduit, qui me conduit sur le chemin de la foi. C'est elle qui a formé mes enseignements. C'est vous qui m'avez formé, parce que avec l'amour de Jésus-Christ, tous les manquements, toutes les faiblesses, eh bien, sont annihilés, sont effacés. C'est elle qui bénit les couples. C'est elle qui bénit les enfants. C'est elle qui, sur les tombes de nos disparus, eh bien, jette le défi de l'Évangile contre la mort. C'est elle qui, dans notre pays, s'efforce de porter le flambeau de l'Évangile, de la parole de vie, malgré ses faiblesses et ses imperfections. Et c'est pourquoi, malgré qu'elle soit imparfaite, nous aimons notre Église. Nous aimons notre Église. Nous voulons l'aimer, travailler avec elle, et dans l'obéissance et la fidélité pour que notre Église soit toujours au service de Dieu et des hommes perdus. Église imparfaite, oui, mais voulue de Dieu, qui sait de quoi nous sommes faits. Église imparfaite, mais où souffle l'Esprit de Dieu. Où souffle l'Esprit de Dieu. Et Seigneur, on peut lui rendre grâce de nous avoir fait naître dans notre Église et pour ce qu'elle nous a donné. Je ne pourrais pas compter les bénédictions que l'Église ici à Lille nous a données et vous a données. Peut-être un jour, il faudrait mettre sur un papier toutes les bénédictions qu'elle vous a données. Bien qu'elles soient imparfaites, nous demandons au Seigneur que le souffle de l'Esprit, eh bien, souffle sur l'Église et nous rende fidèles à son service et à son travail. Et alors, l'apôtre Paul, dans le deuxième passage, en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20, si tu veux le mettre, Pierre-André. Et il dit, car je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne me voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Vous vous rendez compte? L'Église primitive parfaite, l'Église, elle est faite d'hommes et de femmes pécheurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a une façon de servir le Seigneur et essayer de se mettre tous à l'œuvre. Et on va lire ça dans Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 18. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Alors, un grand nombre de personnes qui vivent dans l'Église s'imaginent que le travail religieux, entre guillemets, dans l'Église et dans le monde est réservé à quelques-uns seulement. Et qui sont mis à part pour ce travail. On va penser aux pasteurs, aux anciens, aux responsables. C'est vrai que l'Église a désigné ces gens pour un ministère de l'Évangile, mais c'est une grave erreur de penser que le plus humble des fidèles n'a pas de responsabilité directe dans ce travail. On peut se souvenir que si le christianisme s'est développé et s'est répandu si rapidement dans les trois premiers siècles de notre ère, c'est pas simplement grâce au travail incontestable des gens qui étaient responsables, mais aussi des fidèles anonymes. Des soldats, des voyageurs, des ouvriers, des esclaves, des hommes et des femmes de tout rang qui vont, et de toutes conditions, qui vont propager l'Évangile. Le même rôle a été fait, vous savez, lors de la réforme chez les protestants. Ce sont des gens qui ont propagé les idées de relire la parole, les commerçants et tous ceux qui avaient une activité itinérante, qui ont propagé la parole. Alors, c'est dire tout simplement que dans une communauté chrétienne, eh bien, tous sont appelés à l'œuvre. Tous. Et c'est ce qu'on appelle parfois, avec un mot un petit peu savant, le sacerdoce universel. Et c'est vrai que lorsqu'on lit dans la première lettre de Pierre, il dit « comme des pierres vivantes ». Et vous connaissez ce passage. « Édifiez-vous en maison spirituelle, formez » et là, c'est une vieille traduction, un saint clergé, et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun a des dons différents, et l'Église, bien qu'elle paraisse imparfaite, eh bien, va se construire comme une maison spirituelle. Alors, vous savez, on a cette expression qui rend bien assez cette pensée, tirer à la même corde. Ça veut dire tous... tirer avec une corde, pas un seul, et pas simplement des gens qui regardent ou qui tirent dans l'autre sens ou qui empêchent ou qui se mettent à l'écart pour ne pas tirer. L'assemblée vivante va être celle où les responsables et les fidèles travaillent ensemble à la même œuvre, c'est-à-dire propager l'Évangile. De ceux qui s'occupent des groupes de jeunesse, des classes d'enfants, des enseignants, des gens qui font du service peut-être plus humble et qu'on ne voit pas, tout le monde doit tirer dans le même sens, avec leurs moyens et le témoignage d'une vie fidèle et exemplaire. Alors, on va demander au Seigneur de nous aider à être des ouvriers dans la vigne, d'être des lumières du monde et de nous préserver de la paresse, parce que souvent, la paresse est là pour nous empêcher de travailler et nous pousser à non pas se reposer sur autrui et attendre tout des autres. Et comme une phrase célèbre Ne demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Église. Et ça change beaucoup, beaucoup l'attitude qu'on peut avoir. Il faut que nous soyons remplis de zèle et de foi, afin que nous puissions travailler à édifier d'abord notre assemblée, les uns les autres, tous, chacun comme nous sommes, et surtout à propager sa parole. Alors, l'attitude du chrétien dans l'Église, eh bien, c'est serviteur de tous. Et là, on a un passage, ou du moins un verset, et c'est le verset que Anderson nous a déjà lu. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Alors, le mot « serviteur », c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, hein. Si vous avez du personnel chez vous, vous n'allez pas dire « j'ai deux, trois serviteurs qui sont ». Vous vous feriez attraper, d'abord. C'est comme si, à mon cabinet, on me demandait si j'avais quelqu'un qui m'aide. « Oui, j'ai ma servante qui est là ». Vous n'allez pas dire ça. Parce que le mot « serviteur », c'est un mot qui n'est plus tellement à l'honneur. En ces temps un petit peu, finalement, de fausse liberté et d'illusoire indépendance... Et encore, la traduction serviteur est un petit peu amoindrie, parce que le mot grec, c'est doulos, et doulos, ça veut dire esclave. Donc vous remplacez esclave de tous. Donc vous voyez, déjà, le mot avait été un petit peu surélevé, et là, maintenant, il est encore difficile. Hein. C'est vrai que lorsqu'on parle de serviteur ou d'esclave, on y voit une insupportable déchéance, un odieux esclavage dont il faut s'affranchir à tout prix. Eh bien, si vous ouvrez le Nouveau Testament, eh bien, on va constater que le terme de serviteur, de service, reviennent sans cesse dans les Épîtres. Et bien loin d'être humiliant, ce sont des titres de gloire. Ça traduit le vrai caractère du chrétien. Et ils mettent en relief, finalement, l'essence même de notre attitude de disciple du Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Quand Jésus disait « Lequel passe pour le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?» Eh bien, c'est celui qui sert qui est le plus grand. Alors, il y a un personnage, j'aime bien relire les histoires des gens qui nous ont précédés, qui ont des hommes de foi. Il y en a un qui s'appelle Alexandre Rodolphe Vinet. On ne va pas le mettre tout de suite, Pierre-André, je vais juste faire une petite explication. Qui est un professeur de français et de littérature à Lausanne, hein, au 19e siècle, et qui va enseigner donc le français et la littérature française en université. Et puis, c'était quelqu'un qui a fait des études de théologie. Et donc, il va se dire, bah, ouais, c'est bien d'enseigner le français à Lausanne, mais finalement, il veut enseigner la théologie. Et il va se remettre à découvrir la parole. Et lui, qui faisait partie de l'église vaudoise, hein, donc une église protestante, va découvrir que... Bah, son église est imparfaite et qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et donc, il va énormément enseigner les gens. Et à un moment, bien les responsables de l'église vaudoise vont lui dire gentiment « faut que tu t'en ailles parce que ça va pas ». Et lui va être tellement peiné qu'il va refaire une assemblée qu'ils vont donner les assemblées évangéliques libres. Et là, il va enseigner la parole de Dieu. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement important en Suisse. Il faisait même partie du gouvernement. Et à cause de tout ce qui se passait, il a démissionné. Et donc, il est devenu quelqu'un qui a enseigné beaucoup, beaucoup. Et on voit là quelqu'un qui a su retrouver la véritable doctrine évangélique. Je vous dis ça tout simplement parce que il a dit une chose, et on le reverra à la fin, il a dit au sujet du Christ, « Tu naquis pour servir, et servir fut ta gloire, servir est à jamais le sceau de tes enfants. » le service. C'est le mot le plus important dans l'enseignement évangélique, servir. Alors, peut-être que vous ne savez pas exprimer votre foi, peut-être que vous ne comprenez pas de nombreux passages de la Bible, et je fais partie de ces gens-là, hein. Qu'importe, si vous servez, si vous accomplissez dans la fidélité cet ordre du Seigneur, vous faites partie de ses enfants. Et dans la vie quotidienne, en famille, au travail, chaque fois que vous êtes en contact avec un prochain, quel qu'il soit, vous trouverez, si vous aimez comme Christ a aimé, eh bien de multiples occasions de servir. Et le plus modeste coup de main donné à celui qui est dans la peine, le moindre geste d'amour, l'oubli de soi, c'est un témoignage qui est rendu à Jésus-Christ. Donc, et si on appliquait ça dans nos vies, peut-être que l'Église serait un petit peu moins imparfaite, et puis le monde autour de nous serait peut-être un peu plus facile, et la société serait peut-être transformée si chacun avait au cœur ce besoin de service, si tous nous comprenions que c'est là que se trouve le véritable enseignement de Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut avoir été saisi soi-même par Christ, le serviteur qui a servi jusqu'à donner sa vie. Alors, on pourrait avoir cette prière pour conclure, qu'on pourrait donner au Seigneur. Apprends-nous chaque jour, notre Dieu, à servir comme Jésus a servi. Remplis notre cœur de ton amour infini, afin que nous trouvions notre honneur dans l'oubli de nous-mêmes, dans le zèle que nous mettons à nous faire tout à tous par amour pour toi. Et c'est cette image de Jésus qui lave les pieds de ses disciples et cette phrase qui est répétée, « Tu n'as qui pour servir, et servir fut ta gloire, servir est à jamais le sceau de tes enfants. » Alors notre Église, oui, elle est imparfaite, parce que souvent nous n'arrivons pas à servir, ou souvent nous sommes paresseux, mais le souffle de l'Esprit nous change et nous améliore pour continuer à faire que le service soit quelque chose qui soit important dans nos vies. Et c'est sûr qu'on peut trouver des tas de choses qui ne vont pas dans l'Église. C'est sûr. Et vous en trouverez. On pourrait faire une liste, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quand nous sommes rassemblés ensemble, eh bien, nous sommes l'Église du Seigneur. Amen. Thank you.